Le théâtre, le théâtre. Voulez-vous savoir ce que c'est que le théâtre ?
Le théâtre, c'est un art du moment. On est en rapport direct avec les spectateurs.
Pièce détachée, il faut que le théâtre présente une autre forme, une autre manière de vivre.
Sur Radio Campus Paris.
Le théâtre est pour tout le monde, pour vous comme pour les autres. Faut pas être exclusif.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans Pièce détachée, l'émission consacrée aux arts vivants en Île-de-France sur Radio Campus Paris. Dans cette émission en période de vacances, que nous avons donc enregistré, nous vous diffuserons l'interview de l'auteur et comédien Thomas Gourdi pour sa pièce Force Bleue, qui parle de police. La pièce se joue depuis le 8 avril et jusqu'au 30 avril au Théâtre de Belleville. Ensuite, nous vous parlerons en chronique de Les héros ne dorment jamais, une pièce écrite et mise en scène par Edith Proust pour la Comédie Française et qui se joue au Théâtre du Petit Saint-Martin du 20 mars jusqu'au 10 mai. Mais aussi d'une histoire autrichienne, un spectacle de Marion Solange Malenfant, une mise en scène et direction d'acteur de Benjamin Ducasse qui se jouait au Théâtre du Mouffetard du 10 au 18 avril. Et enfin, nous vous parlerons du Procès de Jeanne, une pièce mise en scène par Yves Bonnen et qui s'appuie sur les minutes du Procès de Jeanne d'Arc, laquelle est incarnée par Judith Chemla. C'est du 14 au 29 avril au Théâtre des Bouffes du Nord et puis sera en tournée notamment en Italie. Mais commençons par Force Bleue, que nous sommes allés voir mercredi dernier au Théâtre de Belleville. Je ne peux que vous recommander de prendre une place pour les dernières représentations. C'est un des meilleurs spectacles que j'ai vus depuis au moins un an. Cette pièce parle de la police, donc, de quelqu'un qui l'a connue de l'intérieur parce que sa famille y travaille depuis plusieurs générations. En rupture nette avec cet héritage familial, il nous livre un témoignage, mais aussi un regard fin sur ceux dont on dit qu'ils sont les dépositaires de l'autorité publique ou aussi des détenteurs de la violence légitime. C'est un spectacle politique au sens le plus noble du terme, poétique, philosophique, corporel. Thomas Gourdi est l'auteur et acteur époustouflant de cette pièce. Il est accompagné d'Alexandre Duclosel qui l'habille de son et musique en direct. Nous avons eu la chance d'obtenir une interview de Thomas Gourdi, ce que nous allons maintenant vous diffuser. C'est parti.
Pièce détachée, les arts vivants à la radio.
Bonjour Thomas Gourdi, merci d'être avec nous pour cette interview, pour cette superbe pièce Force Bleue qui explore l'univers de la police, l'univers professionnel de votre père, de votre grand-père et même de votre arrière-grand-père. Mais visiblement, ce n'est pas le vôtre puisque vous avez rompu avec cette tradition familiale. Ma première question concerne ce point. Comment en êtes-vous arrivé à écrire cette pièce après déjà tant d'années dans le théâtre ?
Il y a des œuvres qui se préparent dans le secret comme un mauvais coup. Et moi, depuis que je suis en rupture avec mon père, je me suis souvent dit, je pense que ce serait plus facile s'il était décédé parce que j'aurais moins de... Là, il vit à 3,5 km de chez moi à vol d'oiseau et du coup, ça me hante tout le temps. Et je me dis, s'il était mort, la mort résolverait la chose. Et je me suis dit, peut-être qu'un spectacle pourrait l'assassiner. Mais bien sûr, pourrait assassiner quelque chose de lui qui fait que notre relation est impossible. Et donc, du coup, oui, donc ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait 5 ans que je m'y suis mis. Et puis, 3 ans que je m'y suis mis vraiment. Ça a été le temps, surtout, de l'enquête, de réunir... les numéros de téléphone, les contacts avec les policiers, de pouvoir les... En fait, ça a été vraiment une longue enquête. Pour moi, pas tant en termes médiapartiens, c'est-à-dire que j'avais pas de secret d'État à venir déterrer, puisque finalement, ils étaient déjà déterrés, mais plutôt d'aller comprendre quelque chose de ce que moi, j'avais à dire de ces gens.
Votre père était tout de même un policier particulier, en tout cas avec des fonctions assez lointaines de ce que je peux et sûrement beaucoup peuvent se représenter d'une fonction de policier, puisqu'on apprend dès le début du spectacle qu'il animait la spéciale de gymnastique, c'est-à-dire une section qui notamment préparait des spectacles de gymnastique, mais pas seulement, n'est-ce pas ?
Alors, il y a plusieurs formations. Il y en a eu notamment chez les pompiers, pour qui a été dissoute aussi, en tout cas celle de Paris, mais il y a effectivement la spéciale de la préfecture. Elle avait en charge plusieurs missions, c'est-à-dire la surveillance des cortèges officiels, donc Mon père, l'an qui était tireur d'élite, c'est-à-dire qu'il était sur les toits, et il surveillait les cortèges avec des armes le haut portées. Bon, parce qu'ils étaient tous gymnastes hein, aussi. De très haut niveau technique physiquement, quoi. Et puis, il faisait aussi de la surveillance dans les égouts de Paris, enfin, on l'a dans le sous-sol. En fait, c'est une sorte de brigade DRI, comme ça, mais pas l'arme au poing.
Oui, ça mélange quelque chose de... Enfin, la gymnastique, on l'associe à quelque chose à la base de plutôt bon sportif et un peu artistique. Et je me suis dit, mais c'est peut-être lui qui a mis le pied à l'étrier à la sortie de son fils du cadre policier à travers cette spéciale de gymnastique.
Oui, dans un sens, et ce serait assez ironique et ce serait chouette. Mais en même temps, je me suis rendu compte que ces spectacles, très tard, en allant voir les archives et tout, quand j'étais petit et que je les voyais, je croyais que la France entière voyait ces spectacles. Et en fait, on était surtout des enfants de policiers. Les policières, on était surtout des... C'est un peu de l'entre-soi, un peu comme parfois le monde du théâtre dans certains festivals peut l'être. C'est-à-dire qu'en fait, c'était presque du comité d'entreprise, ce spectacle.
Oui, complètement.
C'était des dispositifs inconscients, je pense, mais d'enrôlement, de culture endogène.
Oui, parce que on en voit un à la fin, donc... On voit ce que c'est que ces pyramides, avec une espèce de chef d'orchestre habillé lui-même en policier, et puis des gymnastes en bleu, blanc, rouge. Donc on voit qu'on cultive quand même toujours l'idée de la police, de la nation, etc., dans un cadre... Je voudrais parler aussi un petit peu là d'une chose, c'est quand on voit donc l'aspect souvenir à travers justement ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Donc il y a plusieurs moments dans le spectacle où vous parlez de... justement par exemple de ces spectacles ou bien du centre de vacances en fait de la police, c'est une sorte de dans lequel vous faites du poney, enfin du double poney, et donc c'est des souvenirs d'enfance et auxquels sont mêlés à travers la musique d'Alexandre Duclosel, de votre complice, il y a quelque chose de l'ordre, enfin donc il utilise une musique qui se base beaucoup sur notamment les sonorités, enfin des fois les jingles des séries animées des années 80, etc.
Samplé de sons qu'on a tiré de certains films, de certains groupes de musique, de certaines dessins animés aussi.
Oui, c'est ça.
Beaucoup des années 80, 80, début 90.
Oui, voilà, les Goldorak et tout ça.
La rigueur dramaturgique, mais parce que c'était vraiment une sonorité un peu mélancolique.
Oui. Et alors, c'est ça, c'est qu'en fait, donc, lui, il utilise le terme anthologique, donc qui fait évidemment une sorte d'assonance avec ontologique, mais il y a quand même le fait que ça soit, donc ça veut dire le fait que ça nous hante. Et vous parlez même d'une recherche anthologique. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce que vous avez derrière la tête avec
alors,
ça,
en fait,
ou c'est simplement un jeu de mots?
Oui, c'est ça, hein, c'est comme un coup derrière la tête, c'est les choses qui nous ont... En fait, il y a une différence entre nostalgique et anthologique, c'est-à-dire que, par exemple, une musique, en ce moment, il y a très à la mode, il y a des groupes country qui vont se reformer et qui vont jouer à la manière de, comme une sorte de citation. Bien sûr, ils modernisent un peu, mais... Il rejoue pour Taylor Swift, c'est un peu ça. Elle joue une country de tout âge, mais avec une technique d'aujourd'hui, quoi. L'anthologie, c'est pas tout à fait le même. Parce que ça a été conceptualisé par Mark Fisher, qui est un observateur, journaliste et philosophe qui s'est suicidé il y a quelques années, mais américain qui a beaucoup travaillé sur la pop culture. Et qui reprend à son compte un concept de Derrida, qui dit il y a des formes dans les sons, il y a des gens qui habitent dans les sons du passé. Et par exemple, si j'utilise une cassette du passé et que je la mixe avec une musique d'aujourd'hui, cette cassette transporte avec elle des fantômes. Derrida, il disait que dans la technologie, il disait alors qu'on avait cru que la technologie allait nous débarrasser de la mythologie. Pour dire de façon un peu méprisante, la mythologie de grand-mère, voilà, genre les cultes de la sorcellerie et toutes ces choses-là, de la superstition. Il dit, en fait, finalement, la technologie multiplie des fantômes. Quand vous avez quelqu'un au vigile, vous avez, vous êtes pas sûr que ce soit réellement sa voix. Personne ne peut vous l'attester, quoi. L'heure est au fantôme.
Oui, d'accord, parce que, en gros, avec l'avènement de, si j'ai bien compris, de tout un tas de supports que c'est mémoriel, en fait, par exemple, ou qui pas forcément mémoriel dans les premières utilisations, mais bon, la photo ou l'enregistrement musical, etc., évidemment, ça permet de... C'est quelque chose qui, quand ça n'existait pas, et, ben, les gens n'avaient qu'une oralité pour évoquer les choses du passé. Alors que là, on démultiplie.
Ouais, c'est ça. Et sans même parler d'avatar 3D, hein. C'est-à-dire ouais. Juste un enregistrement. Bon, il suffit parfois, pour quelqu'un qui a perdu un proche et qui retombe sur un message sur la boîte vocale. C'est très étonnant. Alors, la photo, bien sûr, mais en fait, dans le son, parce que nous, là, c'est vraiment la musique qui nous intéresse. Dans le son, parfois, en fait, on réentend juste un petit riff de guitare. Et on dit, ah, ça me rappelle une série, puis en fait, à coller à cette série, ça rappelle aussi des scènes dans le canapé, ça rappelle des moments, ça rappelle notre enfance, un autre corps qu'on avait. Enfin, plein de choses se déplient dans un son comme pour Proust dans le bout d'une Madeleine, mais enfin, dans plein de choses. Et c'est comment faire de la musique d'aujourd'hui avec des cadavres du passé, voilà, et avec des souvenirs du passé.
Alors je voudrais maintenant aborder la question de l'écriture de la pièce. Il y a beaucoup de matière, il y a des souvenirs personnels bien sûr, mais pas seulement. Il y a aussi des moments politiques, poétiques, et j'ai eu l'impression de manière générale qu'il y avait eu un gros travail d'enquête. Alors cette richesse, cette arborescence qu'on peut ressentir facilement, donne tout de même un spectacle tout à fait fluide, à mon sens très bien construit. Et j'aurais voulu donc savoir comment s'était déroulée cette écriture.
Oui, disons que j'ai beaucoup de mal. Par exemple, le procès, typiquement, il y avait deux procès parce que j'ai fait un procès en appel. Et dans la toute première mouture, je séparais deux procès et je revenais avec le procès. Disons que j'ai une et j'ai enregistré les deux. Hein, où j'ai deux fois une demi-heure d'entretien avec le ministère public, d'ailleurs qui pourrait être crédité. Hein. C'est aussi leur œuvre.
Oui.
Et puis par exemple, la personne dont je parle que j'ai enregistrée pour écrire mon grand-père, c'est 3 heures d'entretien avec cette personne.
Oui.
Ça aussi, quelqu'un que j'ai enregistré. Et puis il y a d'autres événements par lesquels je suis passé. En fait, ma méthodologie, c'était de pas en avoir et de perdre beaucoup mon temps. En fait, ma méthodologie, ça a été de montrer plein d'étapes à des gens. Je sais pas, on a joué une étape au cirque électrique où, par exemple, je racontais beaucoup plus mon rapport à ma belle-mère et un collègue de mon père qui est venu à la maison pendant quelques semaines parce qu'il attendait son procès pour avoir tué d'une balle dans la tête Youssef Kaïf, donc c'était un policier hein, de la VSC et enfin la BSN, Brigade de Sûreté Nocturne, et qui a tué quelqu'un en 1991 à Mantes-la-Jolie. Et donc voilà, mon père ayant fréquenté beaucoup d'assassins, j'avais pas mal de matière sous la pédale.
C'est courant ça, on a l'impression là, parce qu'entre Malik Oussekim, qui est finalement assassiné, et votre père est pas loin, visiblement. Et puis cet assassin-là, et puis aussi, par exemple, et de fait, le co-gérant de la spéciale de gymnastique qui va se retrouver complètement mêlé au meurtre de Malik Oussekim. Est-ce qu'en fait, c'est quand même assez régulier de est-ce que c'est dans la police de connaître des histoires comme ça et d'être proche de gens?
Ça je peux pas vraiment
ouais
enfin je peux pas être rigoureux scientifiquement, mais il y a clairement une récurrence. Après ça dépend de quel corps on appartient, c'est-à-dire que
oui, bien sûr.
Mon père il était comment dire dans une brigade d'intervention. Donc c'est sûr que si vous êtes en intervention, il est plus plausible d'être au contact de gens. Les CRS, eux, ils font moins de morts parce que tout simplement, bah, ils sont en plein jour et leur travail, c'est de repousser des foules. Alors ils font des bleus, ils font des... Il y a des catastrophes aussi, mais c'est plus des corps comme la BRI, comme les BAC, comme les CSI, comme la CRS 8, qui est une unité un peu dite d'élite, qui intervient dans les banlieues. Clairement, les morts qu'il y a, c'est dans les territoires dits perdus de la République, mais en fait, où la République indigénise des individus, une partie de notre population. Mm-hmm. Et c'est dans ces territoires-là, donc loin de nos yeux, que ces gens-là meurent. Mais par exemple, entre... pour donner quelques chiffres, depuis Zied et Bouna, donc en 2005, ces deux enfants qui sont morts dans un transformateur pour avoir fui la police, il y a 145 morts de la police. Et entre 1977 et 2025, il y a 945 personnes qui sont décédées suite à une mission des forces de l'ordre. Donc,
oui, c'est quand même...
Michel, du nombre de morts tous les ans par accident, c'est pas beaucoup, sauf que là, c'est pas des accidents, c'est des coups portés. Et alors, bien sûr qu'il y a eu aussi des répliques par rapport à des hold-up et parfois des vieux policiers qui ont répliqué, mais on sait très bien que ça, c'est beaucoup plus fréquent dans nos séries télévisées ou dans le film que dans le réel. C'est-à-dire que très souvent, c'est des gens qui tombent sur un contrôle de police qui dégénère et ces gens-là ne sont même pas armés. Et on va dire que leur façon de redémarrer leur voiture était une arme par destination.
Oui, je me souviens d'une histoire il n'y a pas longtemps.
Il y en a eu.
Il rêve de t'attraper, Lolo. Un pub, une moustache sur les portraits robots. Avec moi, sa B et des sacs de rando. La police voit du shit dans toutes mes vidéos. Petit à l'école, ils se faisaient frapper. Pouvaient devenir quelqu'un, mais sont devenus condés. Ils veulent se venger, cher de l'autorité. La vie se résume à pas se faire choper. Chez moi, tout le monde trouve son bonheur. Je fais des courses poursuites en roller. Les poches sont pleines, j'suis bon acteur. Un joint de la taille d'un réacteur. J'veux faire l'argent du B. L'État survole le fisc et toutes les lois. Mec, la bague, la vie de ma mère. La douane est du majeur en l'air. Fais ce qu'il est que j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Mec, la bague, la vie de ma mère. La douane est du majeur en l'air. Fais ce qu'il est que j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Ça veut pas que les jeunes fument la beuh, mais eux boivent du rouge tous les soirs. Vide ma valise sur le quai de la gare, bah que fouille dans mes caleçons sales. Fils de pute, contribue à mon pécule. Les drogués c'est ma tribu, un ou deux kills j'ai plus. Ouais, j'suis un procès clair, j'ai comme procès je réerre. Jeune apprenti proxénète, car quoi très peu sur le net. J'serai dans ma planque barricadée, mais jamais derrière les barreaux. Fétichiste du bon bédo, anarchiste qui les collabos. J'veux faire l'argent du B. L'État survole le fisc et toutes les lois. Mec, la bague, la vie de ma mère. La douane est du majeur en l'air. Fais ce qu'il est que j'sais comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Mec, la bague, la vie de ma mère. La douane est du majeur en l'air. C'est comment faire, ouais, la justice, quelle salope.
Hein, la résine de quoi? Ah là, j'ai déjà vu ça à la télé. Non, mais j'aime pas ça. Ah, mais j'fume pas. Ouais, t'inquiète, bonne journée.
Eh, nique la bague, la vie de ma mère. La douane est du majeur en l'air. Fais ce qu'il est que c'est comment faire. Ouais, la justice, quelle salope. Nique la bague, la vie de ma mère. La douane est du majeur en l'air. Fais ce qu'il est que c'est comment faire. Ouais, la justice, quelle salope.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et dans l'émission Pièces détachées. Vous venez d'entendre Nick Labac de Lorenzo.
Alors, je voudrais maintenant un peu parler justement de tout ça, sur le fond, sur le rapport à la police. Alors, il y a une chose qui est très bien, moi j'adore en fait ce point-là dans le spectacle, qui est le fait que, notamment quand vous faites parler Charles Pasqua, vous imitez entre guillemets Charles Pasqua, parce que, dans le fond, vous le faites parler pas comme un idiot. C'est-à-dire que vous essayez de lui trouver, je pense, la meilleure façon dont ils argumentent la façon, l'intervention et la légitimité de la police, et notamment comment on peut se draper de cette violence légitime. Et qu'il la faut. En gros, l'idée, c'est il la faut bien parce que quand même la société n'est pas sans violence. Et quelque part, la police est là normalement pour rétablir un peu les choses, parce que s'il y en avait pas, ben ça serait peut-être la loi du plus fort, etc. Donc il y a vraiment une chose qui est intéressante derrière, parce que je pense que d'abord c'est pas seulement lié à la police, c'est-à-dire que quand on a des gens en face de nous qui sont pas forcément avec qui on n'est pas forcément d'accord, ou même avec qui on n'est franchement pas d'accord, on a envie de caricaturer leurs propos. Et surtout, on n'a pas vraiment envie d'entendre comment ils parlent. Et alors qu'en fait, c'est à mon avis un point extrêmement important pour pouvoir justement améliorer la critique, et puis de mieux comprendre justement ce contre quoi on travaille. Et est-ce que pour vous, c'est un point qui est important? Est-ce que déjà vous ressentez que vous avez fait ça? Parce que c'est peut-être mon point de vue. Peut-être que vous pensez que les élèves...
Non. Alors, par rapport à Passepoix, typiquement, j'ai regardé beaucoup de ses interviews. Je me suis abonné à l'INA. J'ai beaucoup regardé l'heure de vérité, qui était une émission fin 20e siècle. Il avait déjà du Hanel en tant que présentateur. Et j'ai beaucoup écouté Charles Passepoix. Il y a des choses qui sont des verbatim. Hein. Il y a des choses qui sont vraiment des choses qu'il a dites.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était tout à fait habile pour déployer la fiction. Justement, cette fiction consiste à dire, sans la police, la loi est faite. Mmh. On a besoin de la police pour, qui est en pleine maîtrise d'elle-même, par sang-froid, en fait, tient un lieu de puissance légitime qui nous protège, de la violence, de la loi du plus fort. Ça, c'est une fiction que lui savait tout à fait bien mener. Beaucoup mieux que des Castaner, d'Emmanuel Valls.
Ouais. Et pourtant, on a un souvenir de Passepoix comme un peu un bourrin.
Ouais, mais non, ça n'était pas un...
Ouais.
Ouais, non, c'est plutôt un bourrin parce que, il a assassiné lui-même des gens quand il était au sac, qu'il fréquentait des grands bandits et qu'il pouvait dire des choses de façon très bourrine, par exemple, tout pour qu'on se rappelle, c'est, il faut terroriser les terroristes.
Ouais.
Bon, c'est vraiment la loi du talion, donc c'est très bourrin. Mais la manière, la formule par laquelle il l'amène est assez subtile.
Mmh. Ah, je suis assez d'accord, ouais. Et donc voilà, donc ça c'est un, mais, justement, cette idée, c'est marrant parce que vous-même, vous vous positionnez au bout d'un moment parce que dans votre arrestation, là, celle qui vous a conduit au tribunal, vous défendez une famille, si j'ai bien compris, de Rome, qui sont en train de faire signer ces fausses pétitions, éventuellement pour faire des petits larcins, bon bref, ou bien récupérer un peu d'argent. Et donc vous êtes intervenu dans cette situation. Et après, au bout d'un moment dans le spectacle, vous dites non mais dans le fond ça me sert bien. Et puis vous commencez à interroger votre propre rapport. Et on a l'impression que vous basculez à ce moment-là. Je me suis dit il va terminer là-dessus. Puis finalement après il y a de nouveau l'intervention de cette femme colombienne entre guillemets. Les gens qui verront le spectacle le retrouveront. Enfin et qui dit et qui interroge votre rapport à ça. Et donc, en fait, c'est bizarre qu'il y ait cette espèce d'aller-retour. Est-ce que c'est votre rapport vous-même à la problématique de ce qu'est la police? Parce que vous, en fait, j'ai l'impression qu'à travers, dans le spectacle, vous interrogez de façon un petit peu dialectique le rapport qu'on peut avoir justement à une autorité comme la police.
Bah, disons qu'il y a toujours un truc qui résiste, c'est-à-dire que même quand on est abolitionniste, ou même des gens qui travaillent sur des... Je pense à Paul Rocher qui a travaillé sur « Que fait la police ?», un livre humide. Il interroge des possibilités d'abolition. Bon, bah, il pose des questions aussi historiques. En Irlande, justement, après avoir pris l'indépendance de l'Angleterre, enfin avoir chassé les Anglais, les Irlandais ont bien dû repenser une nouvelle police. En Afrique du Sud, après la fin de l'apartheid, la police était proprement coloniale. Comment repenser une police? La Révolution française, comment penser une police? La Commune de Paris. qui faisait le service d'or le temps de la commune. Enfin, je veux dire, il y a toujours la question d'une police qui se pose, quoi. Et donc, à quoi doit-elle nous servir? Bon, vu qu'on est dans des historiquement situés, hein, là, en ce moment, la police, on n'est pas dans une vision révolutionnaire de la police.
Non.
Les seules choses qu'on nous propose, c'est des Beauvau 1, Beauvau 2, une transformation, c'est-à-dire, comme il est dit dans Rocco et ses frères, il fait de tout change sans que rien ne change. C'est-à-dire, voilà, à la limite, on y a un problème. Par exemple, après la mort de la Pousseki, on a dissous les voltigeurs. Bon, c'est juste que beaucoup, pendant un certain nombre d'années, ils étaient plus à moto. Mais bon, voilà, on change pas grand-chose, quoi. Et du coup, moi, je me dis, moi qui suis, très méfiant vis-à-vis des services de police, ça m'est arrivé parce que, par exemple, dans la rue, ça tape des 30 de vitesse, d'avoir envie d'appeler la police. Ça m'est arrivé, quand je me suis fait vider mon appartement, d'aller régulièrement au commissariat demander d'ajouter des trucs que, comme par hasard, je m'apercevais qu'on m'avait volé. Alors qu'en fait, je faisais juste gonfler la liste pour l'assurance et d'avoir tout à fait à l'écoute de ça.
Ouais.
Et même vachement sympa. Et de me dire, oh, quand même. En fait, ces petits réflexes embourgeoisé, quoi, comme ça, où en fait, d'homme blanc, c'est pas mis en difficulté par la police, parce que, bon, a priori, il me voit, et il ne voit pas en moi un ennemi ou un adversaire. Bon, bien sûr, j'ai des affects aussi, où, de temps en temps, je peux me dire, ah ben là, ce serait cool que les flics interviennent, espèce de, parce que la police, elle m'a pénétré, elle est en moi, elle est à l'intérieur de moi.
Ouais.
Donc, oui, c'est dialectique, quoi. Ça s'est fait en plusieurs temps, c'est-à-dire que y a des couches qui sont déposées, mais moi par exemple pendant la loi travail, il y avait eu un grand rassemblement d'anarchistes, j'avais lu un courrier où je leur disais la police, je m'adressais à la police, j'avais écrit un truc hyper lyrique et quand je le lis je suis hyper gêné et en fait je disais vous êtes les gardiens de nos libertés, débarrassez-vous de vos racailles. Et je croyais que c'était hyper séditieux de dire ça. J'avais fini mon texte et il y a plusieurs anarches qui avaient pris le micro pour me défoncer, en fait, pour dire, lui, il est perdu, le pauvre. Et bon, c'était il y a juste 10 ans. En fait, je croyais que j'étais déjà dans un processus révolutionnaire. Mais en fait, j'étais en train de valider les institutions. Je crois qu'on vit pas la même police selon notre identité. Moi, je suis un homme 6, j'ai passé 40 ans, je suis blanc.
Ah oui, c'est sûr que c'est pas. Mais même dans sa propre vie, moi aussi j'ai plus de 40 ans et quand j'avais 20 ans, je me faisais arrêter régulièrement, j'avais les cheveux longs, maintenant ça m'arrive plus jamais. Enfin, je veux dire, rien que le fait d'avoir changé de catégorie d'âge, de classe d'âge, change tout.
Ouais, c'est ça, non, mais même, je veux dire, même quand il y a aussi, il y a ce fait-là que, avant, je fumais de la beuh, maintenant, je fume du CBD, donc maintenant, c'est fini, quoi. Et puis, même quand j'avais un peu de beuh sur moi, je savais très bien que j'allais pouvoir argumenter.
Oui.
Je savais très bien que, là encore dernièrement, j'ai fait une pub, je me suis fait une auto-pub sur Instagram, et j'ai vu une voiture de police passer, ils étaient coincés au feu rouge, donc je me suis mis sur le côté, et en attendant de les voir passer, j'ai mis mon tract pour Force Bleue,
ouais.
Ils sont passés, j'ai dit Force Bleue, voilà.
Ouais.
Et puis, 10 mètres loin, ils ont freiné, après je pense qu'ils m'ont entendu, ils demandaient ce que j'avais dit, donc ils font demi-tour, mais discrètement. Donc moi, discrètement, j'étais à vélo, j'ai pris une voie en sens inverse, et à Bagnolet, et puis je suis parti. Et ils m'ont poursuivi, mais sans le deux tons. Enfin, je veux dire, silence, quoi. Et puis, ils se mettent devant moi, ils me bloquent et tout. Ils me disent, qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Oui, désolé, j'imagine que vous avez cru que je vous insultais. Et puis là, je vous montre. Je leur donne les tracts de la pièce. Je leur dis, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus et tout. Et là, ils lisent le tract. Qui s'intéresse à la loi, mais c'est pas, le théâtre ne s'intéresse pas à la loi, il s'intéresse à l'injustice, ouais, et c'est un spectacle scientifique et tout. Et, bon, donc en fait, ils étaient quand même assez énervés, mais moi, j'étais suffisamment sécurisé pour enclencher mon téléphone, filmer et me dire ça fera une bonne story à Instagram.
Ouais, ouais.
Je pense que quand on est en fragilité, qu'on sait très
bien... Ah oui, on pense pas comme ça.
Bah non. Mmh. Je veux dire, c'est pas un effet du courage qui me fait gêner. C'est que je me dis, ça va bien terminer tout ça.
Et si vous aviez... parce que bon, évidemment, il y a une note finale qui est quand même importante parce que dans le climat, effectivement, de racisme... qui monte de toute façon exponentielle et puis enfin déjà de ce tournant autoritaire hein, qui est en France mais ailleurs, donc on peut se dire dans 10 ans, on sait pas du tout, même avant, bien avant, où on va se retrouver, et là-dedans la police étant toujours quand même l'organe de répressif de la puissance enfin du pouvoir, c'est extrêmement flippant, et en plus de ça on peut dire qu'il y a quand même une bonne partie de la police qui a déjà fait son la police en entier, globalement, a fait déjà cette espèce, s'est orientée dans cette direction. Et ça pose la question, en fait, de qui contrôle la police, dans le fond, et de qu'est-ce qu'on veut comme police. Moi, j'ai vu des trucs avec des anards aussi, dans il y a déjà une quinzaine, une vingtaine d'années, etc. Et c'est toujours compliqué parce que, j'ai quand même l'impression que c'est un peu, dès le moment où il y a police, ça, au bout d'un moment, d'ailleurs, je trouve que si j'ai bien compris dans le spectacle, c'est quelque chose de profond. Si on est dans un corps de police, au sens général du terme, c'est-à-dire un élément répressif de la société, automatiquement, on a une sorte d'habitus qui va avec. Et on vit les choses à travers ce spectre-là. C'est tout ce que vous dites sur le fait de tourner en rond autour du néant ou je ne sais quoi. Et je pense que c'est un peu difficile d'échapper à ça. Donc la seule façon d'y échapper, c'est peut-être d'avoir des citoyens policiers un peu comme en... Je sais pas si en Suisse ils font ça, là. C'est-à-dire, on intègre des corps de... Le citoyen intègre en fait la police en tant que citoyen.
Ouais. Il tente la formule en France. Bon, moi ça me fait vraiment penser à voisins vigilants, ces trucs, mais je...
Ouais.
Là,
c'est un autre problème.
Là, il y a des gens qui pensent... mieux que moi là-dessus, enfin je veux dire.
Vous n'avez pas poussé politiquement la question.
Ben oui, c'est ça, mais en fait j'ai eu un long entretien avec Mathieu Legousse, qui est quelqu'un qui est assez qui a beaucoup travaillé sur l'univers police, qui est sur la fabrique, qui a fait beaucoup de livres,
ouais.
notamment La domination policière. C'est son livre. Et en discutant avec lui, il me disait le problème dans les spectacles sur la police, c'est qu'on essaye de faire sa catharsis avec le policier, c'est-à-dire de lui trouver une porte de sortie ou d'imaginer un monde idéal où il pourrait exercer cette puissance d'agir. Mais le truc, c'est que même si la police est un tout petit peu moins violente et un tout petit peu moins raciste, ça n'empêchera pas que son rôle demeure de maintenir un ordre social.
Oui.
Et je soupçonne que ces tentatives de citoyens policiers, que ce soit plutôt des gens du côté de l'ordre social que du côté de la contestation de celui-ci. Donc, est-ce que ça rendrait pas plus démocrate, enfin encore en tout cas plus horizontal, le fait qu'on puisse être policier pendant un mois Mais en fait, ça dépend de la mission qu'on nous fait faire. Peut-être qu'en un mois à peine, on peut épouser pleinement...
Oui, la logique...
La logique, et voilà, et même encore pire, c'est-à-dire continuer à l'épouser alors qu'on n'y sera plus. Je veux dire, c'est un peu comme les gens qui ont fait leur service militaire pendant la guerre d'Algérie. Ils n'ont jamais été débarrassés de leur racisme, leur accolé au basque pendant toute leur vie, et puis ils ont transmis cette violence à leurs enfants. Il y a des récits qui racontent ça, donc je ne sais pas trop si ça pourrait être une solution.
Oui, ce serait une forme d'enrôlement dans la logique policière. Ouais.
Ça dépendrait de... En fait, quelle est la méga structure derrière? Et qu'est-ce qu'elle va faire à ces gens-là, en fait? Par contre, pendant la Commune, je veux dire, effectivement, c'était des citoyens révolutionnaires qui faisaient eux-mêmes la police. Et il y a des récits qui sont vachement intéressants. Bon, par exemple, oui et non. C'est ça qui est vraiment intéressant en livre de Paul Rocher, c'est qu'il raconte, quand on est dans un processus révolutionnaire ou post-révolutionnaire ou après-guerre, bah, cette police, elle est fabriquée et les coutures sont un peu grossières et tout. Donc peut-être que c'est là, dans ces moments-là, que c'est intéressant. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de dialectique qui se joue et il y a des contre-pouvoirs très très forts.
Ouais, mais ça dure pas en fait.
Bah, et voilà, c'est qu'en fait, comment stabiliser une institution qui prend en charge la violence et qui est stable, c'est compliqué quoi.
Bah oui. Je pense qu'elle est obligée de se professionnaliser d'une certaine manière et c'est ça le problème.
Bah ouais. Et en même temps, là, moi, le type que j'ai enregistré, bon, qui m'a tenu des propos profondément fascisants, hein. Ouais. Et à un moment, il a attiré mon attention sur un problème qui est vraiment grave aussi, il m'a parlé de la privatisation. Des services de surveillance et tout. Et c'est vrai que là, dans le désengagement de l'État, dans tout ce qui est régalien,
ah bah oui.
On voit aussi apparaître la menace de la police comme service public. Alors bon, on pourrait se dire que c'est une bonne idée, mais c'est vrai que si c'est des grands groupes industriels qui paient leur propre police...
Oui, ou un peu à la manière dont, par exemple, sur un autre registre... L'armée est remplacée par des espèces de mercenaires comme Blackwater ou...
Ouais,
c'est ça. Ça fait peur, hein.
Ouais, carrément.
Bah écoutez, merci beaucoup, Thomas, pour toutes ces réponses. J'aurais une toute petite dernière question. Est-ce que le texte que vous avez produit pour cette pièce fait l'objet d'un projet éditorial ou... Parce que c'est quand même très bien écrit.
Bah, c'est gentil de dire ça. En fait, il y a les éditions théâtrales qui viennent le 30.
Ouais.
Donc, je l'espère. En fait, je crois que c'est peut-être un peu fétiche, mais si je pouvais avoir ce livre édité, enfin, cette pièce éditée, ce serait... Je crois que ce serait donner de la viande... À toutes ces idées qui sont vibrantes comme un peu la chair de poule comme ça, ce serait les c'est ça sur un corps quoi.
Ouais, ben j'imagine, ouais, parce que
j'adorerais ça.
Ah ben on vous souhaite donc que ça marche, donc jusqu'au 30 avril au théâtre de Belleville. Et puis ensuite, bah, vous savez pas encore, hein, on en a discuté un peu avant.
Oui, là ça se construit, il y a beaucoup de gens qui sont vus, il y a une personne qui s'appelle Lise Closier qui fait la diffusion et qui travaille à construire des chemins à traverse parce que on sait que ça va être une façon d'inventer. Je pense aussi imaginer des choses avec la France Insoumise, voilà, utiliser les gens de l'Assemblée. Penser avec eux, en tout cas pas les utiliser, mais voilà.
D'accord.
Et ouais. On va réfléchir à tout ça.
Bon, très intéressant. Ben, on va vous suivre.
Ah, super.
Merci beaucoup.
That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the officer from overseer, you need a little class.
Sound of the Police de KRS-One. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Tout de suite, on passe autour de table de l'actualité théâtrale.
Il s'agit d'une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
Et ce soir en chronique, nous allons parler d'une histoire autrichienne qui se joue au théâtre du Mouffetard du 10 au 18 avril et du procès de Jeanne qui se joue du 14 au 29 avril au théâtre des Bouffes du Nord. Mais tout d'abord, je laisse la parole à Guigui qui a vu Les héros ne dorment jamais au théâtre du Petit Saint-Martin qui se jouera jusqu'au 10 mai. C'est à toi, Guigui.
Voilà, j'ai été voir Les héros ne dorment jamais. Donc c'est au théâtre du Petit Saint-Martin. C'est la comédie française Hors les murs, donc librement inspirée de Perceval ou Le Comte du Graal de Chrétien de Troyes. Donc c'est un texte et une mise en scène d'Edith Proust. Et avec Alain Langlais et Edith Proust. Donc, sur scène, on se retrouve avec deux chevaliers en armure rutilante. Il y a des escargots partout, hein. Il y en a par terre, il y en a sur les murs, ils bougent. Et il y a un étrange magnétophone au fond de la salle, au fond de la scène. Et donc, ce magnétophone s'actionne et surgit alors la voix de Denis Podalydès. Ça va être notre narrateur. Il raconte l'histoire de Lancelot et nos deux chevaliers se mettent en action. Alors bon, c'est pas simple avec ces armures encombrantes, hein. Ça donne lieu à pas mal de sketchs, oui, parce qu'il s'agit d'un spectacle assez drôle. À noter quand même que je découvre qu'il est possible d'exprimer l'étonnement, la malice, la peur et plein d'autres émotions dans une armure. C'est pas évident quand même, mais je dois dire que ça fonctionne. Le public rit beaucoup. Alors, je regardais un peu le public aussi, ce que j'aime bien. Donc, il y a des jeunes coulos, souvent assez beaux, qui rient très très fort. Ça fait très envie. Après, il y a des vieux un peu plus médusés. Puis bon, il y avait un type de Radio Campus au ton monocorde qui rit pas, car probablement il est trop coincé, mais qui passe tout de même un bon moment. Donc à un moment, en fait, la bobine du magnétophone se bloque, la voix de Podalydès bégaye, et là, nos deux héros sont bloqués. Alors c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, c'est pourquoi ça s'appelle, dites-moi, les héros ne dorment jamais? Bah heureusement qu'ils dorment jamais, parce que comme ça, ils peuvent nous sauver tout le temps, en fait, c'est une exigence de... On peut quand même le minimum qu'on peut demander aux héros, même si c'est beaucoup demandé de pas dormir. Donc oui, alors je disais la bande se bloque et donc nos robots, nos héros en armure sont comme des robots dysfonctionnels. Et là en fait ils enlèvent leurs armures et à l'intérieur on découvre Alain et Georges, donc sont deux clowns. Alain il a un peu la tête dans les nuages avec un peu une tronche de Don Quichotte. Et alors Georges par contre est beaucoup plus flippant, hein, avec un maquillage à la Joker dans Batman. Georges c'est en fait un personnage récurrent dans la carrière d'Edith Proust, qui s'est tourné vers l'art du clown pendant ses années de conservatoire. Donc c'est un personnage qu'elle développe depuis des années, donc là qu'elle fait apparaître dans ce spectacle. Donc Georges il a une toute petite voix stridente et un regard fixe et puis une espèce de maquillage qui déborde de partout. D'ailleurs, Georges regarde beaucoup et fixement le public, il interpelle le public, il trouve des petites victimes, un peu comme à la manière des one-man shows. C'est assez drôle. Bon, moi j'avoue que j'étais plutôt assez content que Georges ne me calcule pas. Hein. Le duo du grand escogriffe qui plane et avec Georges complètement siphonné fonctionne très bien. Encore une fois, ça rit beaucoup. Globalement, moi je me pose une question, ça m'avait l'air d'être un spectacle pour Alice, enfin pas pour Alice, mais qu'Alice aurait apprécié. Et c'est une pro des clowns et tout ce qui est cirque. Malheureusement, elle n'y est pas allée, donc vous auriez eu peut-être une analyse plus pointue avec Alice. Donc je vous conseille, amis auditeurs de Radio Campus, d'aller voir ce spectacle. Alors encore une fois, c'est... Où est-ce que je l'ai noté ? Et bon, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est jusqu'au... Alors attendez... Voilà, jusqu'au 10 mai. Hein. C'est du 20 mars au 10 mai, donc voilà, vous avez le temps. Allez-y, c'est vraiment pas mal. Et puis, Alice, vas-y aussi. Hein. Voilà.
Bah merci, Guy. Et bien maintenant, on passe à Camilla pour une histoire autrichienne que tu as vue au Théâtre du Mouffetard. Et on t'écoute, Camilla.
Je découvre au Théâtre Mouffetard une histoire autrichienne. La nouvelle pièce de la compagnie Les Maladroits. Cette pièce est une proposition à part, à la lisière du théâtre d'objets et de la mémoire intime. Pendant 1h15, nous assistons à une geste des fouilles, à presque de l'archéologie affective. Sur scène, tout semble tenir à peu des choses. Quelques figures, des allumettes et des matières simples comme du papier. Et pourtant, ces minimalismes ouvrent un espace vertigineux. Les récits, inspirés d'une trajectoire familiale marquée par l'histoire européenne du XXe siècle, se déploient par fragments, comme si chaque objet portait en lui une trace, un souvenir à demi effacé. La manipulation devient alors un acte de transmission. Le comédien, les manipulateurs, fait apparaître, mais il tente aussi, au montant, de comprendre. Et le spectateur est invité à combler les vides, à projeter ses propres images. Dans ce type de théâtre, la marionnette n'est pas un double du vivant, elle est une surface, une caisse de résonance. Et ici, il capte quelque chose de profondément fragile. La difficulté à raconter, à hériter, à se situer face à un passé parfois problématique, encombrant. La mise en scène joue avec les échelles, comme souvent dans les mises en scène des maladroits, et les points de vue, passant de détails presque microscopiques à une vision plus ample, comme un va-et-vient entre intime et collectif. On sort d'une histoire autrichienne avec une impression persistante, celle d'avoir assisté à un travail de précision, presque de dentelle, où chaque geste compte. Malgré ce travail rigoureux, j'ai trouvé les fonds de la pièce particulièrement faibles. L'histoire racontait celle d'un grand-oncle, adolescent des années 30 et issu d'un milieu rural. Mais il fait partie de la jeunesse hitlérienne et sera enrôlé dans l'armée allemande à la fin de la guerre. Les questions liées à l'embrigadement, au choix d'opinion, au fait de pouvoir être ce que nous sommes, sont au centre de la pièce. Mais cette histoire ne m'a pas particulièrement marquée ni touchée. Il y a quelque chose d'incroyablement ordinaire et banal, et pour moi, il y a une faiblesse de fond dans cette histoire. Il manque quelque chose, à mon avis. Il n'y a pas de force. C'est un peu dommage. Mais bon, j'attends avec impatience une nouvelle pièce de la compagnie des Les Maladroits.
Eh bien, merci beaucoup, Camilla. Nous passons maintenant à la dernière pièce, le procès de Jeanne, que vous avez vu, Julien et Alice. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Alors, on est allé voir au Bouffe du Nord la pièce de théâtre qui s'appelle Le Procès de Jeanne. C'est une proposition musico-vidéo-théâtrale lyrique conçue par la comédienne Judith Chemla et le metteur en scène Yves Bonnen. Le texte est écrit d'après les minutes du procès de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle, avec la langue et le style de l'époque. On est en 1431. Jeanne est captive, emprisonnée. Elle comparaît devant un tribunal d'inquisition, la suspectant d'hérésie et d'idolâtrie. Composée presque exclusivement de membres de l'université anglophile de Paris et présidée par l'évêque Cochon qui porte bien son nom. Autant dire un procès perdu d'avance au moment de ces guerres sordides contre les Anglais. L'histoire de cette femme engage tant de postures antagonistes que je m'y suis intéressée de plus près. Pourquoi cette femme mystique mobilise autant d'opinions contradictoires ? La comédienne Judith Chemla joue magnifiquement le rôle du personnage de Jeanne. seul contre ses inquisiteurs, représenté dans un film de Pierre Nouvel, projeté sur un mur en fond de scène. En deux mots, Jeanne est en avant-scène et ses inquisiteurs jouent dans le film un peu en interaction avec elle. Dans le film, il y a Jacques Bonafé qui joue l'évêque de Beauvais, entouré de clercs, chamoines, doyens, de la chrétienté entre autres. À l'arrière-scène, il y a les musiciens qui accompagnent la musicienne de façon très délicate, un peu comme un écho discret. Cette composition est une forme d'oratorio. La musique se mêle à l'histoire et accompagne le sens de chaque mot. C'est vraiment presque comme un acteur, cette musique. Cette femme ne rentre pas dans l'ordre établi. Un ordre établi par une communauté bien pensante, représentée uniquement par des hommes. Cette force d'opposition face à un ordre établi par des hommes me donne envie de les transformer en porcs. On lui reproche de porter des habits d'hommes et d'avoir fait la guerre, rôle réservé aux hommes. Le prétexte de porter des habits d'hommes pour la condamner semble futile. Dans les faits, Jeanne dénonce se faire violer et maltraiter en habits de femme, car à l'époque, l'habit fait le moine. Sa colère nourrie par la faim, l'épuisement et les violences de ses geôliers me touche. Une voix dictée par sa voix intérieure. Elle dit effectivement que ses voix intérieures lui ouvrent la voie, et je me plais à imaginer un chemin tracé par notre force de caractère. On pourrait appeler cela l'intuition, aujourd'hui, si Jeanne n'était pas si mystique. Alors, un bémol, c'est effectivement un très beau spectacle, très bien joué, mais la musique dicte un peu trop ce que l'on doit sentir. Ce qui me plaît dans le théâtre, c'est le vide, le dépouillement qui donne lieu à la force d'imaginer. Et voilà, c'est vraiment le bémol que j'aurais à donner. Et c'est vrai que peut-être que ce spectacle dans un lieu plus cru, avec un jeu peut-être qui se jouerait que sur la langue, m'aurait peut-être plus emporté. Et toi, Julien ?
Alors moi, j'étais avec Alice Circé pour regarder ce spectacle. Alors c'est, comme tu l'as dit, c'est très bien monté, très bien joué. La musique est particulièrement efficace. La comédienne comme les acteurs sont très bons, mais, parce qu'il y a pour moi un gros mais, on est dans un spectacle qui devient absolument inoffensif. Et parce que tout simplement on a quelque chose qui est pensé pour faire du grand spectacle, un spectacle très bien léché, très réussi, très maîtrisé, quelque chose où on peut aller en toute confiance. On ne sera pas déboussolé, on ne sera pas bousculé. On aura la possibilité de projeter de façon un peu anachronique, alors que pourtant, on est sur les minutes du procès, hein, le texte est exactement celui de l'époque. Mais il y a quelque chose dans la projection que je trouve anachronique. Quelque chose qui fait qu'on essaye de faire de Jeanne d'Arc tout ce qu'elle a comme histoire. C'est-à-dire soit une héroïne nationale, soit une héroïne féministe. J'ai su après coup que certaines voulaient en faire une héroïne queer. En fait, ça sert à rien. En fait, peut-être parce que moi j'ai un rapport de prof à l'histoire, je veux pas lui faire dire autre chose que ce qu'elle a été. Là, je trouve qu'en fait, on a juste un outil de projection. Mais on a quelque chose qui ne sert pas, quelque chose qui distrait. Et pour moi, on peut y aller en toute confiance avec n'importe qui, personne ne sera heurté, personne ne sera choqué. On va passer un moment réussi, puisque c'est effectivement un spectacle réussi, mais on n'en sortira pas là avec autre chose que simplement la sensation d'avoir passé un moment agréable.
C'est vrai que ce spectacle a eu plusieurs prix, hein, et... La distribution est avec des artistes de renom. Mais je trouve quand même que ça vaut le détour. En tout cas, moi, je vous invite vraiment à venir découvrir ce spectacle qui nous a en tout cas amené à débattre avec vraiment des regards très antagonistes.
Mais n'espérez pas y voir quelque chose de plus.
Mais si, espérez.
Eh bien, merci. Julien, merci Alice. Notre émission touche à sa fin. Un petit récapitulatif. Ce soir, nous vous avons parlé de Force Bleue, écrit et interprété par Thomas Gourdi, que nous avons eu le plaisir de recevoir en interview. La pièce se joue encore jusqu'au 30 avril au Théâtre de Belleville. En chronique, nous vous avons parlé de « Les héros ne dorment jamais » à hors les murs de la Comédie Française qui se joue au Théâtre du Petit Saint-Martin jusqu'au 10 mai. Mais nous avons aussi parlé d'une histoire autrichienne qui passait au Théâtre du Mouffetard jusqu'au 18 avril, c'est terminé. Et enfin, du procès de Jeanne qui se joue encore deux jours jusqu'au 29 avril au Théâtre des Bouffes du Nord. Cette émission a été préparée et présentée par moi-même, Michel Carton, avec la complicité de Alice Vallard, Julien Hante, Guigui Blanchon et Camilla Pizzichillo. La prochaine émission, ce sera le lundi 25 mai. D'ici là, écarquillez bien vos yeux. Bonne soirée.
Sure as both must rise and fall, I'll be there to see you through, just as long as there is time. I will never leave your side, and if ever that you feel that my love is not sincere, I will never betray my heart. I will never betray my heart. I will never betray my heart.